J'étais admis à Grandchamp. Ça m'a fait ni chaud ni froid. J'étais juste content de partir, de prendre l'air, comme aurait dit mon grand Léon. J'ai fait mon sac. Je ne me suis pas retourné en fermant la porte de ma chambre. J'ai demandé à ma mère de mettre l'argent de M. Martineau sur mon livret. Cet argent, j'avais plus envie de le dépenser. J'avais plus envie de rien, sauf de l'impossible. Et je comprenais qu'on ne pouvait pas tout acheter dans la vie. Mon père a profité d'une de ses tournées en province pour me conduire jusqu'à ma nouvelle école. Nous ne nous sommes pas beaucoup parlé pendant le trajet. Nous savions que nos routes allaient se séparer. Vous me rappellerez dès qu'il y a du nouveau, hein? Il a hoché la tête. Puis il m'a embrassé maladroitement. Grégoire. Oui? Non, rien. Tâche d'être heureux, tu le mérites. Tu sais, je te l'ai jamais dit, mais je pense que tu es un type bien. Un type vraiment bien. Et il m'a serré les bras très fort avant de remonter dans sa voiture. J'étais pas le meilleur en classe. J'étais même dans les derniers. En y réfléchissant bien, il me semble que j'étais vraiment le dernier. Pourtant, les profs m'aimaient bien. Un jour, Madame Vernoux, la prof de français, nous a rendu nos explications de texte. J'avais eu 6 sur 20. « J'espère que ta machine à éplucher les bananes était plus performante », m'a-t-elle dit en me faisant un petit sourire. Je crois que j'étais bien vu à cause de ça. À cause de cette lettre que j'avais envoyée. Tout le monde ici savait que j'étais nul, mais que j'avais envie de m'en sortir. En dessin et en EMT, par contre, j'étais le caïd. Surtout en EMT. J'en savais plus que le prof. Quand les élèves n'arrivaient pas à faire quelque chose, c'était moi qui venais voir en premier. Au début, Jougleux le prenait mal. Maintenant, il fait comme eux. Il me demande tout le temps des conseils, c'est marrant. Ma bête noire, c'était le sport. J'ai toujours été nul, mais ici, ça se voyait encore plus. Parce que les autres étaient bons et qu'ils aimaient ça. Je ratais tout. C'est normal. Je ne sais ni courir, ni sauter, ni plonger, ni attraper un ballon et encore moins le lancer. Rien de rien. Zéro coucouche panier. Les autres se foutaient de moi gentiment. Ils disaient « Hé, Dubosc, quand est-ce que tu mets au point une machine à te fabriquer des muscles ?» Ou alors « Attention les mecs, c'est Dubosc qui va sauter, prépare les pansements. » J'avais ma mère toutes les semaines au téléphone. Et à chaque fois, je commençais par lui demander s'il y avait du nouveau. Un jour, elle a fini par lâcher. « Écoute, Grégoire. Stop. Ne me pose plus cette question. Tu sais bien que je te le dirai tout de suite s'il y avait du nouveau. Parle-moi plutôt de toi, de ce que tu fais, de tes profs, de tes copains et tout ça. » J'avais rien à lui dire. Je me forçais un peu. Et puis j'abrégeais la conversation. Tout ce qui ne concernait pas mon grand-père m'était devenu égal. J'étais bien, mais je n'étais pas heureux. J'enrageais de ne rien pouvoir faire pour aider mon Léon. J'aurais pu soulever des montagnes pour lui. Me couper en morceaux et me laisser frire à petit feu. J'aurais pu le prendre dans mes bras et traverser la terre entière en le serrant contre mon cœur. J'aurais enduré n'importe quoi pour le sauver. Mais voilà, il n'y avait rien à faire. Juste attendre. C'était insupportable. Lui m'avait aidé quand j'en avais eu vraiment besoin. Et moi, rien, que dalle. Jusqu'à ce fameux cours de PS. Ce jour-là, c'était cordonneux au menu. L'horreur. J'essaye depuis que j'ai 6 ans, et j'ai jamais été foutu d'y arriver. Jamais pu. La cordonneux, c'est ma honte. Quand ça a été mon tour, Momo a gueulé. « Eh, venez voir ! Il y a l'inspecteur Gadget qui va nous montrer ses chaussettes !» J'ai regardé le haut du poteau, et j'ai murmuré. « Grand Léon, écoute-moi bien. Je vais y arriver. Je vais le faire pour toi. Pour toi, tu m'entends ?» Au troisième nœud, j'en pouvais déjà plus, mais j'ai serré les dents. J'ai tiré sur mes petits bras pleins de fromage blanc. Quatrième nœud. Cinquième nœud. J'allais lâcher. C'était trop dur. Non, je pouvais pas. J'avais promis. J'ai grogné. J'ai poussé sur mes pieds. Mais non, j'en pouvais plus. Je commençais déjà à lâcher prise. C'est à ce moment-là que je les ai aperçus. Les mecs de ma classe, en cercle, tout en bas. Il y en a un qui a crié. Vas-y, Dubosc, tiens bon. Alors j'ai essayé encore une fois. Des gouttes de sueur me brouillaient la vue. Mes mains étaient en feu. Dubosc, Dubosc, Dubosc. Il hurlait pour me soutenir. Septième nœud. J'allais lâcher. Je sentais que j'allais m'évanouir. Et en bas, il chantait le générique du dessin animé. Oh là qui va là, inspecteur Gadget, c'est lui que voilà, inspecteur Gadget. Il me donnait du courage, mais pas assez. Il me restait plus que 2 nœuds. J'ai craché dans une main et puis dans l'autre. Grand Léon, je suis là, regarde. Je t'envoie ma force. Je t'envoie ma volonté. Prends-en. Prends-en, t'en as besoin. L'autre jour, tu m'as envoyé ton savoir, et bien moi, je t'envoie tout ce que j'ai. Ma jeunesse, mon courage, mon souffle, mes petits muscles hargneux. Prends-les, grand Léon. Prends tout ça, je t'en supplie. L'intérieur de mes cuisses commençait à saigner. Je ne sentais plus mes articulations. Plus qu'un seul nœud. Allez, allez, allez. Ils étaient déchaînés. C'est la prof qui gueulait le plus fort. J'ai hurlé. Réveille-toi. Et j'ai attrapé le haut du poteau. En bas, c'était la folie. Je pleurais. Des larmes de joie et de douleur mélangées. Je me suis laissé glisser en tombant à moitié. Momo et Samuel m'ont attrapé et m'ont soulevé en l'air. Oh là qui va là, inspecteur Gadget, c'est lui que voilà, inspecteur Gadget. Tout le monde chantait. Et je me suis évanoui. À partir de ce jour-là, je suis devenu méconnaissable. Déterminé, teigneux, inflexible. J'avais bouffé du lion. Tous les soirs, après les cours, je marchais au lieu d'aller regarder la télé au foyer. Je traversais les villages, les bois, les champs. Je marchais longtemps. Je respirais lentement et profondément. Avec toujours la même phrase en tête. Prends tout ça, grand Léon. Respire ce bon air. Respire. Sens cette odeur de terre et de brume. Je suis là. Je suis tes poumons, ton souffle et ton cœur. Laisse-toi faire. Prends. C'était du bouche à bouche à distance. Je mangeais bien. Je dormais beaucoup. Je touchais l'écorce des arbres. Et j'allais caresser les chevaux du voisin. Je glissais ma main sous leur crinière toute chaude. Et je murmurais encore. Prends. C'est bon pour toi. Un soir, ma mère m'a appelé. Quand le surveillant est venu me prévenir, mon cœur s'est décroché. Les nouvelles ne sont pas bonnes, mon grand. Les médecins arrêtent le traitement. Ça ne sert à rien. Il va mourir, alors. Je hurlais dans le couloir du dortoir. Vous avez qu'à le débrancher, comme ça ira plus vite. Et j'ai raccroché. À partir de ce jour-là, j'ai arrêté mon cinéma. Je suis retourné jouer au baby-foot avec les mecs du foyer. Je travaillais mal. Et je ne parlais presque plus. J'étais dégoûté de la vie. Dans ma tête, c'est comme s'il était déjà mort. Quand mes parents appelaient, je les envoyais balader. Et puis hier, un mec de terminale est venu me chercher dans mon lit. Je dormais à poing fermé. Il m'a secoué dans tous les sens. Hé, réveille-toi, mon pote. J'avais la bouche toute pâteuse. Qu'est-ce qui se passe? Hé, c'est toi, Toto? Pourquoi tu me dis ça? Je me frottais les yeux. Parce qu'il y a un papy en bas dans son fauteuil roulant qui gueule, qui veut voir son Toto. Ce serait pas toi, par hasard? J'étais en caleçon. J'ai descendu les 4 étages en courant. Je pleurais déjà comme un bébé. Il était là, devant la porte du réfectoire, avec un mec en blouse blanche à côté de lui. Le mec tenait le machin de la perfusion. Et mon grand Léon me souriait. Moi, je pleurais tellement que j'arrivais même pas à lui sourire. Il a dit « Tu devrais fermer ta braguette, Toto. Tu vas prendre froid. » Et là, j'ai souri.
Tu as aimé cette histoire ? Bayard Jeunesse te propose d'autres romans à écouter. Un roman pour frissonner. Attention à ne pas écouter la nuit. L'apprenti épouvanteur. Écrit par Joseph Delaney, traduit de l'anglais par Marie-Hélène Delval et raconté par Thierry Vermuth. Chapitre 1. Un septième fils. Lorsque l'épouvanteur se présenta, le jour commençait à baisser. Une longue et dure journée de travail s'achevait et je m'apprêtais à souper. « Vous êtes bien sûr que c'est un septième fils ?» demanda-t-il en m'examinant d'un air dubitatif. Papa acquiesça. « Et vous étiez vous-même un septième fils ?» Papa hocha de nouveau la tête et se mit à danser nerveusement d'un pied sur l'autre, éclaboussant mon pantalon de boue et de purin. Sa casquette trempée dégoulinait. La pluie n'avait pratiquement pas cessé depuis un mois. Les arbres commençaient à bourgeonner, mais le printemps tardait à venir. Mon père était fermier, comme son père avant lui. Et le premier souci d'un fermier est de conserver ses terres. Pas question de les partager entre ses enfants. Les parcelles se réduiraient à chaque génération jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Un père lègue donc sa ferme à son fils aîné et place les autres en leur trouvant autant que possible un bon métier. Mieux vaut donc être bien vu du voisinage. Si on possède une grosse ferme et qu'on a confié au forgeron de nombreux travaux, il accepte parfois un apprenti. Ça fait déjà un fils de casé. J'étais le 7e enfant et toutes les possibilités avaient été épuisées. En désespoir de cause, papa envisageait de m'envoyer comme apprenti auprès de l'épouvanteur. C'était du moins ce que je croyais comprendre. J'aurais dû me douter que maman était derrière tout ça. Maman était derrière beaucoup de choses. Longtemps avant ma naissance, c'était son argent qui avait payé notre ferme. Comment mon père, un septième fils, aurait-il pu se permettre une telle dépense? Maman n'était pas d'ici. Elle venait d'un pays au-delà de la mer et, en l'écoutant attentivement, on remarquait sa façon particulière de prononcer certains mots. N'allez pas imaginer qu'on voulait me vendre comme esclave ou quelque chose de ce genre. J'en avais plus qu'assez des travaux de la ferme, de toute façon. Et ce que les gens d'ici appelaient la ville n'était qu'un hameau perdu au milieu de nulle part. Je n'avais aucune envie d'y passer.
Un roman pour découvrir la cour du roi Soleil et ses intrigues. Les Orangers de Versailles, écrit par Annie Pietri et raconté par Céline Mauge.
Chapitre 1. Antoine, ta fille a presque 14 ans et elle travaille toujours pas. À son âge, mes enfants gagnaient déjà leur pain depuis longtemps. Ma parole, tu vas la nourrir à rien faire jusqu'à ses épousailles.
Augustine, la femme de Gaspard Lebon, s'était plantée devant Antoine, ses grosses mains rouges bien ancrées sur les hanches.
J'ai appris que la marquise de Montespan cherche des servantes. C'est une chance d'entrer au service de la favorite. Chez elle, ta fille verra le roi tous les jours. Gaspard et moi, comme tous ceux qui travaillent au jardin, on se dit que ta Marion est capable. Pense donc, une fille de jardinier qui sait lire et écrire. C'est sûr que tu as un bon père, mais tu devrais pas la laisser traîner dans le parc habillée comme un garçon à ramasser des mauvaises herbes. C'est pas comme ça que tu vas réussir à la placer.
Antoine avait regardé Augustine droit dans les yeux. Elle ramasse pas des mauvaises herbes. Elle herborise.